Transhumance. Ce soir, Mostranum, deuxième partie. Ce soir donc, pour la dernière émission de la saison, nous allons aller à la rencontre de messieurs Mansour Benchida, chercheur, Mehdi Cheibdera, poète, et Zerhouni Mohamed, architecte et artiste peintre, qui vont nous parler de Mostaranem. Pour commencer cette série d'entretiens, M. Mansour Benchida nous parle des saints patrons de la ville de Mostaranem.
Avec des messieurs qui ont la responsabilité lourde de nous parler de leur ville, de Mostaganem. Alors, monsieur Mansour Benchida, qui est enseignant à l'ITE et qui prépare donc une thèse sur l'oralité imaginaire chez Rachid Mimouni. En 1982, vous avez donc comptabilisé 52 saints intramuros. Nous allons parler donc des saints de la ville et leur symbolique. Il y a un poète, El Mehdi Cheibdera, qui est professeur de littérature française au lycée Zerouki de Mostaganem, qui est un des plus vieux lycées. Donc, monsieur El Mehdi Cheibdera, qui est aussi poète et qui a eu plusieurs prix de littérature française. Vous avez obtenu le Grand Prix international de poésie de la ville de Plouzané, qui était en Bretagne, en 1989. 1984, vous avez obtenu le premier prix international de poésie en Italie. 1987, la médaille d'argent de l'Institut académique de Paris, publié dans le Florilège 88. Et puis en 1991, le lauréat d'argent et membre académicien de mérite de l'Académie internationale de lettres, de sciences et d'art de la ville d'Alger. Alors vous pensez bien que ce soir vous allez nous parler de la poésie de la ville de Naples. Monsieur Zerhouni Sidi Ahmed, qui est architecte, artiste peintre, urbaniste et également enseignant à l'université, vous enseignez les arts plastiques. Et puis vous nous avez dit, vous avez un tas d'activités, des activités du cœur. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec monsieur Mansour Benchida, qui est donc enseignant à l'ITE, de la dessin. Vous nous avez dit qu'en 1982, vous avez comptabilisé 52 saints intramuros. Alors, les saints et la symbolique.
Oui, effectivement, en 1982... j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène parce que dans la pratique mostaganémoise de tous les jours, il y a une importance beaucoup plus que normale dans la manière de réfléchir, dans la manière de penser, dans les tournures langagières, dans la pratique des femmes, qu'est-ce qu'elles font tous les jours, comment elles réfléchissent, comment elles travaillent, etc. C'est ce qu'on de Welli, actuellement il y en a beaucoup plus parce que la ville s'est un peu plus étendue, sont pour la plupart des mqams. Il faut faire la différence, hein, parce qu'entre un mqam où il n'y a personne d'enterré, hein, et un marabout, un wali, où il y a quelqu'un d'enterré, il y a un mausolée, il y a un catafalque, etc., la différence est de taille. Cependant, la symbolique et l'imaginaire des gens régissent de la même manière, quels que soient les cas. Hein. Par exemple, je prends l'exemple des sept gardiens. Mostaganem, de la vie des Mostaganemois, est une ville qui est protégée. Elle est protégée, elle est censée n'avoir à subir aucune calamité. Qu'elle soit d'ordre tellurique, par exemple, lorsqu'il y a un tremblement de terre dans les environs, on est certain, entre guillemets, qu'à Mostaganem, il ne se passera rien. Alors, les sept gardiens, il y en a trois qui surveillent la mer, on les appelle les gardiens de la mer, et quatre qui surveillent l'arrière-pays, et on les appelle les gardiens de la terre. Les trois de la mer sont Sidi Abqad al-Kharchouj du côté de la crique, à côté de la salamandre, Sidi Mezouz qui se trouvait au port, qui a été légèrement déplacé, mais qui se trouve toujours dans le périmètre du port, et Sidi Abdelrahman al-Mejdoub à Kharouba plage. Et les quatre gardiens de la terre sont Sidi al-Khadr, le gardien de la Dahra, qui est très réputé parce qu'il avait créé le Moutab'atni ou l'Ard al-Berda, Ghazwat Mizghiran et beaucoup d'autres. C'est un poète. Sidi Bendhiba, qui est un des walis de Mdjahr, une confrérie sur laquelle nous reviendrons parce qu'elle est énorme, elle est imposante, elle constitue la majorité de la population mostaganémoise et elle est partie intégrante de leur imaginaire et de leur pratique quotidienne. Sidi Belkacem, qui est le saint patron de Mazagran, un village à côté de Mostaganem, mais qui a la particularité d'avoir été, d'être plus ancien que Mostaganem, plus ancien chronologiquement. Donc Sidi Belkacem, qui est très important. Et Sidi Saïd, au milieu de la ville, que l'on tient pour patron de la ville, et qui se trouve à côté de la mairie, en plein centre de ville. Voilà, par exemple, une anecdote, qu'on appelle l'anecdote des sept gardiens, l'histoire des sept gardiens des Wali, et qui nous fait comprendre comment les Wali sont imbriqués dans l'espace géographique de Mostaganem, mais aussi dans l'espace intellectuel des gens, dans leur imaginaire, et ils sont présents dans beaucoup d'expressions et dans leur manière de vivre leur quotidien.
Justement, cette recherche, c'est aussi une recherche donc sociologique et psychologique. À quoi servent ces ça?
Écoutez, j'ai toujours dit qu'en racontant Mostaganem, je raconte l'Algérie. Je raconte l'Algérie parce que Mostaganem étant une partie de l'Algérie, elle ne peut que refléter ce qu'est l'Algérie. L'Algérie, notre pays, a une âme. Il a une âme, il a un passé. Il a une mémoire collective. Et moi, je me suis toujours intéressé à mon prochain pour essayer, parce que j'adore que les gens sourient. Je n'aime pas que les gens soient malheureux. Et c'est pour essayer de comprendre mon vis-à-vis, c'est pour essayer d'être en symbiose avec lui que je me suis toujours intéressé à ce qui fait fonctionner l'individu algérien en particulier. Ce d'autant plus que de nos jours, il y a beaucoup d'importations, aussi bien de l'Orient que de l'Occident, pour essayer de nous imposer une manière d'être, alors que nous existons, nous avons notre passé. Je ne dis pas qu'il a été administratif, tracé avec les frontières que l'on connaisse aujourd'hui, mais je dis qu'il a toujours existé. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ce qu'on appelle, de manière plus ou moins péjorative, le maraboutisme. Pour moi, c'est un espace psychologique qui est le fondement de la personnalité algérienne.
Et est-ce que vous le retrouvez en quelque sorte dans l'imaginaire collectif?
Ah oui, on le retrouve dans l'imaginaire collectif parce que l'imaginaire collectif, la manière la plus évidente de l'approcher, de le constater, c'est la pratique langagière. C'est la pratique langagière. Et je prends comme ça, à titre d'exemple, par exemple chez nous, un jeune homme qui n'arrive pas à se marier et qui ne veut pas se marier, il est souvent qu'on dise de lui, c'est un véritable zbantot, bayebqa zbantot. Et zbantot, c'est le nom d'un marabout, Sidi Benedji Zbantot, qui est enterré quelque part à Tijdit, le quartier populaire de Mostaganem. Et ce monsieur-là, eh bien, il n'a jamais accepté de se marier. Il est mort célibataire endurci. Et c'est pour ça que, de nos jours, Sidi Benedji Zbantot a laissé le mot Zbantot, qui est un grade de l'armée janissaire, il a laissé dans le parler populaire algérien.
Monsieur Benchida, justement, à propos de ces saints, toutes ces dernières années, il y a eu comme une forme de rupture par rapport à ces saints-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a ce retour et qu'il y a toujours ce rituel, à savoir s'y rendre, offrande et tout ce que ça peut comporter autour de ces saints-là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a ce retour?
De manière assez laborieuse, parce qu'on a l'impression qu'elle est prise en charge par des structures officielles. Dans le temps, les marabouts étaient entourés de douars, ils étaient le patriarche généalogique des messieurs, des habitants, et la fête, elle était naturelle. Ensuite, attention, j'ouvre une petite parenthèse en disant que le phénomène d'acculturation qui a été imposé à l'Algérie par la colonisation a été très fort, très violent, il a été très lent dans le temps. Et si il y a eu quand même le maintien et la permanence d'une pensée algérienne, d'une personnalité algérienne, d'une Algérie, c'est grâce au tissu maraboutique et au réseau maraboutique de l'Algérie. Maintenant, les marabouts en faisaient des wada, qu'on peut appeler aussi moussem. À l'époque, c'était des fêtes qui permettaient aux voisins et aux cousins de se voir, qui permettaient à pas mal de gens, qui permettaient aux marabouts de se recommémorer, de se réinstaller dans l'imaginaire des gens. Et ensuite, il y a eu la déferlante intégriste qui a fait que le maraboutisme, enfin les Ouélis, étaient considérés comme des intrus, parce qu'on avait une idée de la religion qui, à mon avis, est fausse, parce que la religion est une pratique d'être humain, donc elle ne peut pas être une science exacte. Et alors, maintenant, on est en train d'essayer de se réapproprier cet espace imaginaire, mais je dis que le chemin qui reste à faire est très long, et on risque de le perturber en donnant l'impression qu'il est pris en charge par des structures de l'État, donc par une officialité qui n'a rien à voir dans l'imaginaire, dans le temps et dans l'espace.
Est-ce que la vivacité de cette perception populaire n'est pas due au fait que le Wali Sidi Belkacem, qui est le saint patron qui domine la ville et qui est en même temps situé intramuros, n'est pas dû à cette pratique, par exemple, qui fait que chaque couple qui se marie à Mostaganem ne veut pas subir les foudres de ce saint local qui est réputé apporter la fécondité, mais en même temps...
Oui, ça appelle des explications, ça. Hein. Tout d'abord, il faut remonter au fait que chaque marabout, chaque Ouéli, a un statut particulier en fonction de ce qu'il a été. Hein. Par exemple, le plus érudit, c'est Sidi Hmedouche, qui a été plus ou moins délaissé. Et le plus combatif, c'est Sidi Bokassem. Alors, Sidi Bokassem, non seulement il est combatif, mais il a eu l'heure d'avoir chez lui une des plus grandes batailles, la bataille de Mazagran, Razout Mizrin, qui a été racontée par le menu détail par Sidi Al-Khadr Ben Khalouf, encore un autre Wali. Et le problème est que il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi tant de Wali ici à Mostaganem? Tant de Wali ici à Mostaganem parce que durant longtemps, Mostaganem a été une zone tampon entre une zone plus ou moins hispanisée, hein, plus ou moins hispanisée, je veux parler d'Oran et de ses environs, par les Espagnols, et la zone algéroise qui était plus ou moins arabisée par le fait de la présence des Turcs. Et en général, ils se rencontraient soit à Mostaganem, soit dans les parages de Mostaganem, pour faire la guerre, pour faire des batailles, pour réaliser des batailles. Donc, à un moment donné, tous les fiers à bras du monde arabe se donnaient rendez-vous à Mostaganem pour mourir en martyr. Ils venaient ici et pour livrer bataille. Ça a été le cas de Sidi Bokassem qui est venu du Maroc. Ça a été le cas aussi de beaucoup d'autres. Et c'est pour ça qu'il s'en trouve ici un nombre assez conséquent. Et Sidi Bokassem, les mariés de la ville, mariés femmes ou hommes, vont faire la ziara, c'est-à-dire la visite qui est considérée comme rituelle le jour de leur mariage. Sinon, semble-t-il, il y aurait une malédiction qui s'en suivrait, qui porterait sur la progéniture. Mais bon, ici je suis obligé de dire que tous les marabouts fonctionnent de la même manière. Il y a derrière, lorsque on leur manque de respect, il y a derrière une malédiction, c'est ce qui fait leur puissance tutélaire. Alors marabout, c'est ça, hein?
La puissance et la force de cette malédiction, pour passer un petit peu des dessins locaux à l'architecture, ne s'est jamais démentie, y compris du temps de la colonisation, puisqu'on parle au niveau du centre-ville entre Sidi Abdallah et Sidi Saïd, il y a une trouée au plan architectural que les Français, c'est-à-dire la colonisation, n'a pas voulu construire à un endroit parce que la légende locale veut que Sidi Saïd et Sidi Abdallah se regardent.
Oui, c'est une des multiples légendes qui existent à Mostaganem. Mostaganem a une histoire légendaire qui est mystérieuse, qui est terrible, qui est très belle. Alors, la trouée, il s'agit de l'ex-avenue de première ligne, actuellement l'avenue Ibn Yahya Qassem. C'est la principale artère de Mostaganem. Elle est bordée d'immeubles, donc le terrain doit être très cher. Il était très cher même du temps de la France. Il y a entre l'immeuble de l'ex-EGA, actuellement Sonel Gaz, et l'immeuble de l'ex-BNC, actuellement Badr, il y a une trouée, il y a un petit passage qui ne répond à aucune norme architecturale. Hein. Ce n'est pas une impasse, parce qu'il déborde de l'autre côté sur une balustrade qui donne à peu près à 4 mètres surplombant la route qui passe derrière. Ce n'est pas une ruelle, elle ne débouche pas. Ça ne sert strictement à rien. Et les Mostaganémois expliquent l'existence de ce vide par le fait que Sidi Abdallah et Sidi Saïd, qui étaient bons copains, avaient juré de leur vivant que personne ne leur boucherait la vue, ne les séparerait. Et c'est pour cela que, semble-t-il, Les bâtisseurs, les promoteurs de l'époque ont essayé de construire un bâtiment là où il y a le vide maintenant. À 7 reprises, il s'est affaissé. J'attire l'attention sur le fait que le chiffre 7 est un chiffre qui revient assez souvent dans la symbolique et dans le mythe. Mais à 7 reprises, le bâtiment s'est affaissé. Ils ont été obligés, acculés, à laisser ce vide qui permet effectivement, c'est un fait palpable, matériel, qui permet la vue entre Sidi Saïd, le patron de la ville, et Sidi Abdallah Boukabrin. Sidi Abdallah Boukabrin, parce qu'il y a un tombeau là, il y a un autre tombeau à 30 km de Mostaganem à Yanerou. Et semble-t-il, il y a un tunnel entre les deux tombeaux, et le même monsieur est enterré et là, et ici et là. Et Sidi Abdallah est un des walis prépondérants de Mdjer, dont tous les marabouts sont issus de la même famille, sont frères et sœurs, ou bien père et fils. Et Sidi Abdallah de Yanerou est un passage obligé pour les mariés de la localité de Yanerou, de Zaïmiya, des douars environnants. C'est un passage également obligé pour les mariés. Il fait office de ce que fait Sidi Bakassim pour Mostaganem. وحملي كفني من إذا مت رحمة الله إذا مت رحمة الله وإذا عشت موتي خير من فراق موتي خير من فراق داك اليوم سعيد مبارك وفيتك فيها يا يا تاج الخدات خبارك بالمرض اللي فيك حلو قاليك نشوفك ونسقسي في الناس خيانة متهول قلبي من ضرك ونلمو لا يقبل منا نستحمل كل ضرارك ويلمت لا يرحمنا كيما يغفر لي يغفر لك اذنبك وذنوبي انا يا منا محض زينك يا منا يا منا محض زينك يا منا يا منا محض زينك يا منا قلت قلبك ما هو عندي ولا سلت سوال القرحة حين لقيتك راك تصابي هضرتك غير الحليحة ما ترسل مرسول وعدي في مرضي ولا في الصحة بالحما شهرين بدي حتى ثبت دواب المرحة
Alors, Monsieur Zerhouni, architecte et enseignant en architecture, que pensez-vous de cette puissance des saints dans l'élaboration architecturale?
Oui, de la fonction immatérielle de cette trouée.
Bon, avant de parler de... Vaut mieux peut-être parler de l'aspect global. Moussa Ghanem est une ville, disons, assez particulière au bord de la Méditerranée. On avait, disons, à l'origine, une muraille. Il y avait à l'intérieur de cette muraille deux parties bien distinctes, une partie basse, une partie haute. Et il y avait en face une ville jumelle qui s'appelle Tijdit. Ça, c'est vraiment très particulier. Il y a beaucoup de villes qui sont séparées par une... Bon, on ne va pas dire un fleuve, parce que les fleuves, il n'y en a pas ici. Bon, à l'intérieur même des murailles, avec ces portes, ces différentes portes, et là, peut-être qu'il faudrait... notre ami Mansour peut nous... le rapport des portes avec le nombre des saints, etc. Moi, ce qui m'intéressait là-dessus, c'était de faire un travail universitaire... pour vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des murs et des lieux. Hein, les histoires des hommes, ça, c'est l'affaire des historiens, proprement dit. Pour faire des relevés d'architecture, etc., qui a fait quoi, avec quel truc, avec quel matériau, avec quel prisonnier, avec quel fond, avec... là, c'est... Et aucun truc n'a été fait là-dessus. Bon, les saints, je crois que... Les
oui, mais là, monsieur Zerhouni, vous allez nous parler, donc... Vous êtes architecte de formation.
Oui.
Est-ce qu'il y a une architecture propre de la ville de Moussa Ghanem?
Eh bien, il y a beaucoup de particularités. On peut trouver des échantillons européens. Et y compris, ça fait à peine il y a 4 jours, comme voilà, Abdelrahman qui nous... Antonio, comment il s'appelle là,
le Antonio González.
Il est venu, je lui ai fait visiter aussi une... Il a dit que la chapelle, comment elle s'appelle déjà?
La Lebrima.
Non, le truc bizarre.
Non, la Lebrima.
Non, c'était une chapelle catholique.
Une chapelle.
Quelque chose de surréaliste, unique. Je peux parler des échantillons alsaciens. C'est-à-dire... Il y avait tellement de communautés européennes qui venaient ici et chacun voulait faire répéter là où il était ou reproduire les architectures pour ne pas. Et en plus de ça, il y a certains architectes qui se sont permis, parce que c'était un terrain d'expérimentation. Et là, par exemple, il ne pouvait pas s'exprimer en France, il pouvait s'exprimer ici, parce que plus ou moins la loi. Alger, c'est un gros morceau, c'est autre chose. Alors, c'est une sorte de chapelle à la Gaudi. Tout le monde connaît la Sagrada Familia, la célèbre église de Barcelone. L'une des rares trucs un peu surréalistes. C'est une architecture surréaliste ici. Là, on avait un exemple, et devant ce monsieur-là. Il était complètement ébahi pour voir qu'il... Bon, en résumé, il y a beaucoup d'architecture. Bon, maintenant, le tissu original, qui lui-même a grossi plusieurs fois, est complètement dépassé. C'est-à-dire... bon, on peut pas... pardon, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme urbaniste. Je ne suis pas urbaniste. Et l'urbanisme n'existe pas en Algérie. C'est très grave. Et là, c'est un autre débat.
Précisément concernant cette question, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du tissu urbain actuellement dans la ville de Moussa Ghanem?
Ben là, il faut être en possession de tous les rapports administratifs pour voir. Mais bon, le simple citoyen, etc., et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est catastrophique. Comment se fait-il une ville conçue pour je ne sais plus combien d'habitants Non seulement elle s'est pas étendue, mais c'est l'inverse. Bon, en résumé, si vous voulez, c'est une ville qui a été malade du sida, lui propose le cancer, ou bien inversement. Voilà, là on peut parler... Et ceux qui décident l'urbanisme, c'est ça le problème.
Parce comment on que... explique, on dit, on construit comme on vit? Est-ce qu'aujourd'hui, la construction, en tant qu'architecte, intervient dans la vie de tous les jours?
Là, c'est un débat très très lent. Est-ce que l'architecture, c'est une qui fait...
Là, je pose la question à l'architecte.
Oui, oui. L'architecte, il n'est pas responsable de la vie qu'il y a dedans, aussi bien à l'intérieur des murs qu'à l'extérieur. Vous avez beau proposer des palais, on peut en faire des bidonvilles, et inversement. Inversement, vous pouvez avoir des bidonvilles où il y a une vie, où il y a une vie sociale, une vie familiale, une vie individuelle, très cohérente, très saine et positive, etc. Ce n'est pas le cas. C'est une affaire de société. Parce qu'on peut faire de très belles choses qui ne veulent absolument rien dire. Et il est temps de démystifier des tas de concepts. Les gens parlent de façade, de dalle de sol, de trucs, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors que une architecture, finalement, c'est être bien chez soi, c'est se sentir bien et donner cette chance aux gens qu'on fait habiter, qu'on habite. Oui. C'est pas uniquement s'abriter. Oui. C'est habiter. Habiter, ça veut pas dire dodo, c'est tout. Habiter, c'est vivre, aussi bien à l'intérieur de ses propres murs qu'à l'extérieur. Et là, c'est la jungle, hein. Mm-hmm. Pour être un peu...
Et c'est pour ça que vous avez abandonné un petit peu l'architecture ?
Oui, absolument, absolument. Mm-hmm. Parce que, pour des tas de raisons, vous me prenez à chaud comme ça, ça fait combien ? 74 que j'étais diplômé, je peux raconter des tas de trucs sur comment se fait-il, se payer le luxe de former quelqu'un pendant des années et pour qu'il ne s'exprime pas, pour des tas de raisons. Il y a ni notion de maîtrise de l'œuvre, ni même la notion de maître de l'ouvrage, c'est-à-dire le client. Ce n'est pas le client, le privé, qui veut sa petite villa. Ça peut être le bonhomme ou bien le décideur qui décide une ville, par exemple, ou un quartier, ou un truc comme ça. Là, on peut discuter pendant des heures là-dessus. Mm-hmm. Et ce n'est pas uniquement une affaire de bureau. Il y a aussi la discussion avec les principaux intéressés qui sont les futurs...
Donc, pour vous, à l'instar d'autres villes, on voit, on construit en hauteur, sans esthétique, un manque de verdure. C'est un problème aussi national. On construit n'importe où.
C'est encore plus grave que ça. C'est encore plus grave que ça. Parce que le peu de mémoire qu'on avait, mémoire architecturale, a été dénaturée, détruite, et pire que ça, c'est l'indifférence. C'est pire que, je dirais, que la détruire.
Oui. Alors, un urbanisme absent, comme il se passe un peu à travers tout le territoire national, aujourd'hui, on ne peut que regretter. Vous êtes aussi artiste peintre. Oui. On a l'impression que vous avez choisi des voies difficiles, parce que la peinture, à Mostaganem, j'ai l'impression qu'elle est nulle part.
Ben, elle est dans les ateliers, elle se s'élabore avec ses tâtonnements, surtout, elle se cherche. Il n'y a pas d'évidence. Hein. Le miracle, c'est de chaque jour travailler. Peut-être c'est déjà énorme, c'est un miracle. Le fait d'avoir 10 minutes. Si tout va bien, ces 10 minutes peuvent devenir 8 heures. Ouais. Parfois, on peut aller jusqu'à 4 heures du matin en travaillant. Là, c'est le rêve. La peinture, bon, c'est autre chose. Moi, j'ai fait... Enfin, ça, c'est pour peut-être ne pas avoir affaire à un maître de l'ouvrage, finalement, que j'ai choisi ça.
Et pourtant, vous avez le Mostaganemois, le plus grand peintre, Khadda.
Khadda, Benantar, Yaoulassi, il y a des tas d'autres aussi. Il faut dire qu'il y a une école qui a formé beaucoup de jeunes, etc. Bon. Grand mérite à ces anciens, mais il y a aussi les jeunes qui viennent. Mais j'espère qu'ils vont respecter la mémoire de ces grands travailleurs, de ces grands penseurs. Benantar, il ne faut pas l'oublier aussi, qui est l'un des plus grands graveurs au monde. Hein. Il est coté, c'est l'un des rares Algériens à être coté dans le marché de l'art. Khadda, avec tout son prestige, toute sa sagesse, sa gentillesse, n'est pas coté dans... Bon, disons, bon, ça c'est un autre débat, c'est le marché
oui.
de l'art.
Oui, oui. Là, on va passer à la poésie, et puis je lis « Naître et grandir à Mostaganem est un événement augural. Ville maritime, elle est ceinturée de marabouts poètes. c'est la capitale des fous d'Allah et des Meddah à la volupté étourdissante. Alors, El Mahdi Cheikh Badrah, vous êtes également, donc on a dit tout à l'heure, professeur de littérature et poète. On a l'impression que vous êtes un poète incompris. Si vous voulez, en commençant, on peut commencer par un de vos poèmes.
Oui.
Et ensuite, on parlera avec vous de la ville de Mostaganem et de sa poésie.
Alors, je vais vous lire un poème, parce que pour moi, qui s'intitule « Toujours tenir la mer ». Pourquoi ? Parce que quand vous avez lu cet extrait tout à l'heure, je dis plus loin, mais aujourd'hui, le melhoun s'amuit, les meddah s'y rarifient. Ce ne sont plus les fous d'Allah, ce sont les fous de la lacune, les fous du quotidien, les fous du système, les fous que l'on rend fous pour se sentir en sécurité. Alors, comme je suis né dans cette ville, Mostaganem, dans un quartier appelé alors la Pépinière, à quelques brasses du port de Mostaganem et bien entendu du littoral, comme si j'étais destiné à recevoir du secours de l'extérieur, je suis né marin, en quelque sorte, et c'est pour cela que j'ai intitulé ce poème « Toujours tenir la mer ». Et pour moi, Mostaganem, c'est Tizi Ouzou, c'est Tébessa, c'est Oum El Bouaghi, c'est Elizi. Mostaganem, c'est tout ça. Là où j'arpège mon pas à travers le territoire national, je suis chez moi en principe. Je ne réfléchis pas à l'échelle tribale, je réfléchis à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Bon, il semblerait que Blarbiye Goulou Gorbiami. Mostaganem, je n'aime pas dire du mal de ma ville natale, de ma ville, je parle des murs, des coupoles dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que là, quand on pose le problème du milieu artistique, Rimbaud a illustré ça de manière superbe en devenant bandit, c'est-à-dire en se réfugiant dans un désert en Abyssinie et en se faisant vendeur d'armes. Le milieu artistique, je le dis, quitte à déplaire, de toute façon, dire la vérité, ce n'est pas une sinécure, c'est un milieu de bandits. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'amnésie délibérée, il y a beaucoup de... Par exemple, on parle de Sidi Lakhda Bakhlouf, qui est le plus grand poète d'expression populaire du XVIe siècle, mais Sidi Lakhda Bakhlouf ne dérange personne, il est mort, sa poésie est cataloguée, c'est le meddah du prophète. J'ai dit que Sidi Lakhda Bakhlouf était le plus grand poète maghrébin du XVIe siècle, donc, et je suis l'une des personnes qui a été bercée dans son enfance par certains refrains de ce grand poète mystique, qui a été le chantre du prophète, mais en Algérie, comme vous le savez, comme on le sait, comme on ne cesse de le dire hypocritement, à droite et à gauche, de manière à marteler des truismes, on est formidablement reçu que lorsqu'on est mis sous cellophane, c'est-à-dire lorsqu'on est quand on est cadavre, ou bien lorsqu'on sent le cadavre. Bon, je voudrais m'éloigner de ce terrain. Ce poème s'intitule « Toujours tenir la mer », je vais vous le lire. Il faut avoir le pied marin, la pugnacité du barreur, l'endurance du dromadaire et la patience d'un prophète pour naviguer dans ce pays enténébré de spadassins, où l'on surnage dans son sang, dans la mer de sang qui forcit. Il faut dire au roi des nausées, pour tous les naufrageurs du monde, qu'il faut avoir le pied marin pour tenir droit dans ce pays et négocier son oxygène aux violents étouffeurs de rêves. Ô matelots, soucons plus fort, il faut toujours tenir la mer, sinon nous mourrons pour mourir. Alors s'il vous plaît, c'est-à-dire que je voudrais rendre hommage aux personnes qui le méritent, et ce sont des femmes, pour vous dire que l'une des muses sous la ventilation de laquelle ma poésie est devenue une poésie balnéaire, ça a été, ça reste, en dépit de son décès, mon inépuisable grand-mère Zohra. J'ai écrit beaucoup de poèmes sur cette dame, cette grande dame de descendance maraboutique qui fait de la poésie comme on respire. Mais c'était le melhoun dont j'ai dit, je peux vous dire des choses, par exemple, « Sahab al-Zahf, sabhou kutab, al-halwa d'oubinet, hum, ou hna gadna kil'uzeb, natchabtoum atiqan, hum ». Et puis je m'adresse des reproches comme Barka Barka Yel Mehdi l'aïb fik mashi fihom ma bghit ta'shrem jari ma ftalt li ya3jbhom hada politique kbir Barka ma tdfa' fi lklam khir ma tatkarkab fi bir w darak tsbah hammam ça dit je vous donne tout ça je dis aussi en arabe classique j'ai écrit un poème à l'âge de 19 ans qui s'intitule Khouira ou Khanjar parce que j'essaie de comme un tigre j'essaie de sortir du mince catalogage dans lequel on veut me mettre, que c'est un francophone, etc. Khouira ou Khanjar, Khanjar ou Moustakhrij min Ahlam al-Adra, wa Zafir ou Masmoum yibla'ou Abidou Jensia, Akhira Sarkhati Shamsin, Fir Ramadi Mukhtani, Karakizat ou Ashik, تعيشه البنت الليلية ضوضاء يشل ويطعن بقرة الغامضة عشيقة بدون ضحية تسافر في العاصفة أشبح النسير يهوم على الطرق الخاربة والعلماء والطلاب يدخلون في الأطلال القمم الملتهبة تكسر كل العواصف والمطار لا يزال يطفئ الجراح خنجر معلق في سهاد القبيلة أضجيج الدم حيث هناك تتلقى الخطوات أورفاري دي سان فيفو كونفيرج لي با هدوء السفينة حيث هناك يئن الراحل محطم مرهق مصمم أخوي ناركوز دو لا نيف أو لو نوماد رال ديمولي إبويزي فاروشي فراتيرنيل جو مترادوي Javelot propulsé parmi de vagues traces, Romhon Makzoufoun Beina Atarin Moubhema, ailleurs en les calanques, La mer se rassemble, ronflant parmi les rocs où l'aigle veille encore. Hunaka fil khiljani yatajamma ou shakhir al bahr. Haytou hunaka an-nasir yazalu sahiran. Voyez donc, ça c'est une partie de ma poésie. Et puis il y a une autre grande dame. C'est une dame que j'appelle mon huître parturiante. Je l'évoque avec une grande émotion. C'est ma mère qui porte plusieurs noms. Elle s'appelle Khouira. Et il y a une autre grande dame, c'est une noble, c'est une Suissesse de père noble allemand, c'est la deuxième femme de mon père qui s'appelle Marguerite Deladrère, qui était artiste peintre, qui est décédée en 69, qui m'a bercé en me racontant des contes, tout cela, de tout cela, je suis un héritier plein à craquer. Ici, je suis en train de vous faire une démonstration je suis en train de vous montrer ma licité.
Pardon. Écoutez, si vous deviez comparer Moussa Ghanem à une femme...
Oui.
Quelle serait la femme ?
Il y a beaucoup de femmes. Je les ai citées. Moussa Ghanem, pour moi, c'est ma ville natale. Je l'appelle ma ruine natale. C'est un recueil de poèmes. C'est ma vague natale. Je suis toujours en fuite. J'ai donné un récital poétique ici, à la Maison de la Culture, lors de la venue de la délégation de Grenoble, où j'ai parlé de Moussa Ghanem. Je n'en parle pas en termes démagogiques. Je suis natif de Moussa Ghanem. Donc, je suis natif de Tizi Ouzou. Donc, je suis natif de Oum El Bouaghi. Donc, je suis natif de Ilizi. Donc, je suis natif de Tébessa. Je me suis défini Moussa Ghanem.
Cher
je
poète,
suis ton nomade étranger.
Cher poète, quand on aime, on revendique. Hein?
Oui, oui. Moussa Ghanem, je suis ton nomade écumant. Moussa Ghanem, je suis ton étrange étranger. Et là, en Algérie, c'est-à-dire que depuis un certain temps, avec le décès de ma grand-mère, qui est un patrimoine qui a été perdu, on s'intéresse à tout le monde, sauf à cette dame grandiose, et qui a écrit de la poésie, qui parle cette poésie. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, je tiens à le dire ici publiquement, j'essaie de m'intéresser à d'autres formes d'investigation. Ma poésie est résolument tournée vers l'amour, vers la paix. Je suis fatigué, je suis toujours guerrier, hein. Je n'ai pas baissé le caquet, pas du tout, mais je préfère me consacrer à des choses superbes, des choses qui durent. Je préfère m'intéresser à l'amitié entre les personnes plutôt qu'à m'intéresser à ces petits désagréments qui font, si vous voulez, la rocaille de la dictature du prosaïsme quotidien. Je préfère m'intéresser à ce qu'il y a de positif dans mon pays. Pour cela, je voudrais vous lire encore un poème qui s'intitule « Douceur ».
Il est là. On termine avec la douceur. Oui, voilà. Donc, après la fureur, c'est la douceur.
Vous donnez beaucoup de temps. Hein,
quand même. Si.
Alors donc, ce poème douceur, c'est un acrostiche que j'ai écrit pour une fille qui a fêté son anniversaire. C'est une fille qui a un an. Elle s'appelle Sundus. Et je voudrais te dire ces choses à travers la radio. Uh-huh. J'utilise les moyens idéologiques de l'État pour essayer de te faire parvenir ce poème sentimental. Ma chère Sundus, je sais que tu n'arrives pas à me comprendre maintenant, mais j'espère qu'une fois devenue grande et belle et noble jeune fille, tu seras émue d'avoir été considérée par ce poète qui essaye de se battre pour tenir pied dans son pays. Mm-hmm. Si jamais je m'évade au flambé de ton rêve, offrant à ta maman moisson de noctambule. Une fois éveillée, ma fée, invite-moi. Nous n'insisterons pas sur les roses secrètes du fastueux jadis où s'accrochent nos cœurs, orfèvres de l'offrande infinie de l'amour. Un sourire, un baiser, gribouillis de framboises, sirop du fol plaisir au refrain des fontaines. Et là, je suis en train de vous montrer quand même, je suis impudique, je vous montre mon côté lascif qui fait que je suis obligé de terminer en douceur, parce que pour moi, un poète, quelle que soit sa palette de revendications, c'est un homme qui aime, c'est un homme qui, privé d'amour et privé d'oxygène, c'est cette part de soleil que je revendique pour un pays, détruit. J'espère que ce superbe pays, qui est jalousé par le monde entier pour son soleil limpide, pour ses terrains à perte de vue, pour la faconde de sa population, j'espère que ce pays redeviendra le pays de la rébellion, de la belle rébellion, de la magnifique rébellion, de la rébellion fromenteuse, de la rébellion qui se fait dans un champ d'horticulteurs.
Lorsque l'on parle des saints patrons de la ville de Mstranem, Sidi Lakhdar Ben Khlouf est sans conteste une figure emblématique et incontournable. Poète, homme de plume et d'épée, il participa à plusieurs batailles dont la plus célèbre fut la bataille de Mazagran. Sa renommée dépasse largement les monts du Dahra, car il fut l'auteur d'un nombre impressionnant de poèmes dans le genre melhoun, qui comporte plusieurs genres, le poème épique, l'audatif, le madih, madih al-rasoul, hija, etc. Mort en odeur de sainteté, il fait l'objet d'une ziyara annuelle à l'endroit de son mausolée sur les hauteurs du petit village qui porte son nom, Sidi Lakhdar. Mais avant cela, nous vous proposons d'écouter un authentique Gowel qui se livre, comme le veut la tradition, à une véritable joute oratoire au son de la raïta et du gallel.
ياه وتبسم ريح الهوى سعدة الأشجار ورعات عشوب لكل الخلقات رعاه الجزائر نايمة فتحت بنوار وسط الدول الضوات لا مثل الشمعة قاموا بيها رجال كل ليلة ونهار والسجع أنت على رمى هيشي بدعة هذه زيارة سيدي الأخضر وكل عام نتباركوا بهذه الفلتة سيدي الأخضر ليت الليلة نقصة من الأعمار الناس اللي هنا والخيالة وأصحاب الطعام ليت الليلة ناقصة من الأعمار يحيى خوتنا أصحاب الكاميرا اللي زارونا ويحيى خوتنا هنايا ويحيى والأحباب المتلمة والجزائر كاملة الله يوضع البركة والسلامة ضربة نهائية
يوم البعث العظيم ووقوف المحشور
يوم البعث العظيم وقوف المحشر والريق من قوة الشعب يغلي يوم البعث العظيم وقوف المحشور والريق من قوة شعاع يغلي تنجي 124,000 نبي توخى و 313 مرسلين لغي مية واربعة وعشرين ألف نبيت توخى وتلتمية وتلتعش مرسلين لغي يصر شو بالجميع يصر شو بالجميع على طه البشير
إلا شت البخيل غيرة مسخر به من يشوفك راه وجهه يتبدل خلي الرزق للمرأة تتمتع به ذاك التالي يقول دراه من الأول ها الشعري لا تعرف تصفق ها بقال ما تصفق لا تصفق إلا بيت تصفق على كلام الحواني تجيب لك كلام الحواني يا وليدي سنت لي الشعراء شا يقولوا خطة هذا الجيش الحرث بلا ما وما يشبع مولاه ما ينور بكسيل يولو في المجتمع كان عيبوا لا حشمة ويولو في الخريف لكل مرايل جيتك مشتار عين أنا وحليمة ويا قاضي ناس الغرام دير جمل هالشعر إلا تبغي يجيب لك الشعر انت حاجيني ونحاجيك الحاجي وليدي غير في العقل ويقول سيدي الاخضر انا اللي غرست النخله وكان جبتها لجناني الغرس ما يجيب النخله ندير اللي قبيلو هاني مين جات وقت الغلال القدر والقدر قاسوني نعشق في تمر الدقله والحزين ما هنوني حرز روحك في خاطر كاع الشاب اللي هنا ويلا تلقم لي كلام كلمه منه كلمه من الرياح في بلاصتك انا نفيق بك ها الله يوضع البركه والعافيه والسلامه
بسم الإله ربي في نظامي نبتدى رفعت بق سبحانه الرؤوف ثم الصلاة على طه خير الهدى شرقي وغربي والقبلة والجور والريض على أصحابه المجاهدة تبعوا طريق طه كحل الشنتور
Alors, nous nous trouvons au mausolée de Sidi El Khdar. Il y a un festival, le festival qui existe déjà depuis près de 20 ans. Et Monsieur Brakni, vous appartenez donc à l'association qui s'occupe donc de ce festival. Et tout simplement, Sidi El Khdar Ben Khalouf, j'aimerais que vous nous parliez de l'homme. Bon, on sait que c'est un soufi, un poète,
comment on appelle ça, un Moudjahed. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de lui? On sait qu'il est né aux environs du 16e siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sidi El-Khadr Belkhlouf?
Donc, Sidi El-Khadr Belkhlouf, pour nous, il représente trois personnages. Comme vous l'avez dit, le soufi, le Moudjahed, et le soufi, c'est l'homme qui, après une certaine période, a sombré, si je peux me dire de la sorte, sombré dans la perdition, comme il le dit lui-même, dans la perdition spirituelle. C'est-à-dire qu'après 40 années, Sidi El-Khadr Belkhlouf a consacré toute sa vie au côté spirituel, aux louanges du prophète, aux louanges de Dieu, etc. Et après une certaine période, il a essayé de parler de la société, de parler de l'au-delà, de parler du prophète, etc. Son côté Moudjahid, Sidi El-Khadr Belkhlouf, dès son jeune âge, a participé à plusieurs batailles. Et Sidi El-Khadr Belkhlouf, pour nous, c'est un repère dans l'histoire de l'Algérie. Pourquoi c'est un repère dans l'histoire de l'Algérie? C'est qu'en 1554, il nous cite une bataille qui s'est déroulée à Mostaganem et plus précisément à Mazagran, une commune de Mostaganem, où il y avait une invasion de l'armée espagnole. Donc, Sidi El-Khadr faisait partie de cette armée qui a combattu les Espagnols à cette époque. Et il raconte cette bataille dans une qasida qui le dit, donc le filmata antaha yqoul ya fars min tam jit el youm ghazwat mazghran ma'louma. Quand on essaie d'étudier cette qasida, on constate que Sidi El-Khadr Belkhlouf a évoqué toute cette bataille du premier jour jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, le jour où il a le comte d'Acodet, le général qui dirigeait les troupes espagnoles à l'époque, a été tué dans cette bataille. Donc Sidi El-Khadr Belkhlouf raconte cette bataille et il paraît que c'était la plus violente bataille de l'époque.
Alors, à propos de mausolée, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une zawiya, ou alors a-t-il toujours refusé d'en faire une zawiya?
D'après les écrits de Sidi El-Khadr Belkhlouf, on constate qu'il n'a jamais, ou il était en quelque sorte contre les zawiyas. Contre les zawiyas, entre parenthèses. Parce que Sidi El-Khadr Belkhlouf a toujours estimé que l'islam n'est pas représenté par un clergé. C'est-à-dire que celui qui voulait consacrer son temps aux louanges à Dieu, toute personne est libre de le faire. Sidi El-Khadr Belkhlouf a choisi que sa tombe soit tout près du palmier qu'on constate maintenant. Il le dit dans une qasida, Nakhla telqah min ba'd el yibus ikun hdaha qabriya muslimin. C'est-à-dire que Sidi El-Khadr Belkhlouf venait passer tout son temps à côté de ce palmier, tout en essayant d'étudier l'islam, d'étudier les courants religieux de son époque, etc. etc. Et lorsque Sidi El-Khadr Belkhlouf décéda, donc les fidèles de Sidi El-Khadr Belkhlouf ont respecté son vœu et ils l'ont enterré tout près de ce palmier.
En tant que, parce que n'oublions pas de signaler, de dire que M. Brakni est également chanteur shabi respecté à Mostaganem. En tant que chanteur shabi qui allait vous produire ce soir, je pense, quelle est la place du répertoire de Sidi El-Khadr Belkhlouf dans le répertoire shabi local et algérois?
Local et algérois. Donc je peux dire que dans l'art shabi, ce qu'on appelle en Algérie le hadri, parce qu'il y a le hadri mostaganimois et le hadri algérois, le shabi en quelque sorte, Sidi El-Khadr Belkhlouf, donc le répertoire de Sidi El-Khadr Belkhlouf est considéré parmi le premier répertoire dans le medih. C'est-à-dire, Sidi El-Khadr Belkhlouf prend la place de première position après Ben Msayeb, après Abdelaziz Maghraoui, etc. Donc, les écrits qu'a laissé Sidi El-Khadr Belkhlouf, c'est des qasidat, c'est des poèmes qui sont bien faites, bien intitulées, etc.
Pardon, est-ce que c'est plus des écrits ou des poèmes qui sont arrivés à nous par la tradition orale?
Non, c'est des écrits qui sont arrivés par la tradition orale et par la tradition écrite. Il y a des vieux personnages qui ont essayé de d'écrire ces poèmes. Il y a d'autres qui ont essayé de garder certains manuscrits. Et notre génération de jeunes, donc on est en train de actuellement faire de la collecte de ces qasidat. Et en faisant cette collecte, nous avons constaté que Sidi El Hadj Bachlouf avait deux sortes de poèmes. Donc il y a certains poèmes qui sont considérés comme écrits, des écrits qui parlent d'une certaine période dont a vécu Sidi El Hadj Bachlouf, parce que n'oublions pas que Sidi El Hadj Bachlouf a vécu 125 ans, donc plus de deux générations. Donc c'est une sorte de tremplin de l'histoire, c'est-à-dire à partir du 16, 17, 18e siècle, qu'on peut savoir, c'est-à-dire la période où a vécu Sidi El Hadj Bachlouf et quelles sont les choses qui ont, à cette époque, les événements qui ont marqué la période algérienne avant même la colonisation française. Donc je reviens au poème Sidi El Hadj Bachlouf, c'est parmi les parfaits poèmes, parce que tous les chanteurs Chaabi, Alger, Kabylie, Mostaganem, Blida et dans le territoire national, nous en tant que chiour, si je puisse m'exprimer de la sorte, celui qui n'a pas plus de 10 ouvrages de Sidi El Hadj Bachlouf n'est pas considéré comme chiour, parce que Sidi El Hadj Bachlouf, c'est au moins c'est quelque chose d'important pour dans le domaine du Chaabi.
Et est-ce que à combien on peut estimer son œuvre de manière générale?
Son diwan.
Son diwan, d'une manière générale, on peut l'estimer à plus de 3000 qasidat. Mais je peux vous faire une petite confidence. Les anciens chanteurs étaient un petit peu égoïstes, parce qu'ils avaient certaines qasidat, ils les avaient consacrées chez eux. Il y a d'autres qui sont morts sans pouvoir les vulgariser. On ne peut pas considérer ça comme un égoïsme intellectuel, non. Mais ces gens-là aimaient beaucoup plus Sidi El Hadj Bachlouf, et par respect, ils avaient gardé ces ouvrages. Et malheureusement, on les a perdus au cours des années. Et on essaie actuellement de récupérer par-ci, par-là, si on peut. Mais chaque année, parce que le but du festival, le but de la soirée, c'est-à-dire lorsqu'un chanteur apporte une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Donc moi, l'année passée, j'ai apporté deux qasidates inédites. Je les avais reçus d'un vieux personnage qui est décédé. De toute façon, je le remercie. Et quand je les ai chantés, ça a fait quelque chose, parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Il y avait des gens qui n'avaient pas cette... Et j'ai vulgarisé ces poèmes.
On a pu se rendre compte qu'on vient dans ce mausolée, on y dépose ce que l'on veut déposer. Il y a cette fameuse wada. Il y a aussi le... On caresse le palmier qui a une... Bon, qui a une forme très particulière. Et puis aussi, on y ramasse de la terre. Alors, est-ce que vous cultivez, vous, l'association, ce côté un peu mystique qui est inévitable, et aussi le côté scientifique, vulgarisation et tout?
Non, ce que vous avez dit maintenant, moi je suis contre, parce que c'est ce qu'on appelle Bloura al-Arbiya, c'est le bida', parce qu'il y a des gens, qui caressent le sable, des gens qui prennent des cailloux, etc. Mais le but du festival, c'est faire reconnaître la personnalité de ce personnage, de Sidi El Hadj Bachlouf.
يسعد من سطب الشرة بيا من السعدة وزحم في الخلق مع الناس فوق لموت تابعتني والأرض الباردة تبقاو بالسلامة يا ولاد خلوق.
Pour la deuxième heure de Transhumance, nous parlerons de théâtre avec messieurs Mostfa et Bensabar, et de musique andalouse mostaganémoise avec El Hadj Moulay Ben Krizi.
ما بين دوداك الموت صوام مدى لعبت فيها دار الدنيا شو الزمن كنت والناس القراها
وجبة ودعت عليا ظهري نحنا ودنكس وعمل حدا جوارحي ضعيفة ودت مقرمدة من شقة الزعازة عراني معطوب